Bonjour à toutes et à tous. Luc Ferry, dans un article récent dans Le Figaro, revient sur ce sujet qui paraît actuellement d'actualité et que l'on prédit pour les années à venir comme étant un sujet majeur, celui de l'intelligence artificielle et de son application la plus récente dont on a déjà parlé, c'est ce fameux ChatGPT qui est un outil, on peut dire, en libre service et qui a des performances tout à fait exceptionnelles. Alors, il ne s'agit pas de nier l'importance, ni les qualités, ni le progrès, mais plutôt de parler des conséquences. Alors, Luc Ferry revient sur le propos du livre dont j'avais déjà parlé, de l'économiste britannique qui s'appelle Susskind, et qui prévoit la fin du travail grâce à justement à ces progrès de l'intelligence artificielle, et de nombreux observateurs aussi ont prédit toujours dans un catastrophisme ambiant, la perte de centaines de millions d'emplois, ce qui n'est pas rien. Et donc, j'aimerais que l'on s'interroge sur les conséquences dans le secteur, évidemment, que je connais le mieux, qui est mon métier, et qui est le sujet de notre chronique, qui est celui du cadre bâti, de l'environnement, du logement, des bâtiments et de l'urbanisme, disons, toutes les transformations du territoire pour être le plus large possible. Alors, là aussi, je pense que beaucoup de gens, et notamment Luc Ferry, qui dit que l'intelligence artificielle va dessine déjà les immeubles. Je pense que il faudrait marquer un temps d'arrêt sur ces assertions, et ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la machine qui remplace l'homme, plutôt. Et l'homme n'a pas cédé tous ses pouvoirs. Alors, on va, si vous voulez bien, développer ce sujet aujourd'hui, et on peut déjà dire que cette intelligence artificielle, on pourrait poser la question de l'intelligence. Est-ce que le mot intelligence, même s'il est modéré par le côté artificiel, il n'en reste pas moins que le mot intelligence apparaît. Alors, on sait que dans la Silicon Valley, on s'interroge sur le moment où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine, comme s'il s'agissait de match. Alors, on a vu, effectivement, on en a déjà parlé, des tournois d'échecs, mais les tournois d'échecs, ça veut dire que la machine a engrangé la plupart des coups qui ont été faits aux échecs, et que l'humain, face à cette mémorisation gigantesque que permet la machine, peut évidemment être mis en difficulté, ne serait-ce que par le temps de calcul qu'il lui faut faire. Mais là, on est dans un domaine qui est un peu différent, parce qu'on est dans un domaine, on peut dire, de probabilité mathématique. C'est ce sont des séries, même si elles sont sur des millions et des millions d'exemples. Et effectivement, le grand progrès, c'est la rapidité de la manière dont la connaissance nous est donnée, et qui remplace effectivement du travail laborieux de recherche. Alors ça, c'est pas nouveau, parce que ça se passe déjà depuis des années avec Internet, mais la question que je veux poser, est-ce que ce progrès qui est indéniable et dont on bénéficie tous, vous et moi, dans des recherches quotidiennes qui sont De ce fait, facilité et extrêmement rapide et aussi performante, mais on perd aussi justement tout le bénéfice de la recherche. Et le bénéfice de la recherche qui permet aussi de trouver ce qu'on ne cherche pas, c'est la sérendipité. Je crois que ce sont des vases communicants. Je m'explique. Par exemple, si on prend le GPS, c'est prodigieux. Il suffit de dire même vocalement la destination d'un lieu précis et on a un tracé avec, en temps réel, les embouteillages et une voix qui guide en même temps qu'un écran qui montre le chemin. Tout ça est très important, mais quand on veut se repérer dans un lieu où on n'est pas forcément en voiture, on se rend compte que on n'a pas mémorisé et que la facilité de la machine nous rend paresseux et que nous avons une très mauvaise mémorisation des lieux et de l'orientation de ce fait qui ainsi se perd. Alors non seulement elle se perd, mais elle se perd aussi, et on a déjà parlé ici de cela, elle se perd dans les échelles. Alors je m'explique. Les distances, elles sont virtuelles sur un écran et quand on les regarde sur une carte, on regarde l'échelle, on les calcule et les anciennes cartes Michelin que l'on ne voit plus permettaient d'avoir une représentation de la réalité où on essayait de comprendre les dimensions mêmes. Alors, à la fois évidemment des lieux et de la géographie, mais évidemment, et c'est notre sujet, des bâtiments. Donc, c'est encore une fois les vases communicants, et ces outils nous rendent paresseux, et ce n'est pas que cela, c'est-à-dire qu'ils nous donnent aussi une fausse vision du monde. Alors j'ai déjà parlé des aberrations de l'époque qui, évidemment, n'existaient pas avant, où on entend dire, par exemple, que la France est recouverte de béton, et donc la plupart des politiques de réglementation urbaine disent ainsi, il faut arrêter de construire, et on a des réglementations qui effectivement empêchent de construire dans la mesure où on ne libère plus les terrains et on vous dit les centres-villes sont remplis de dents creuses, c'est-à-dire de bâtiments qui seraient démolis dans la continuité urbaine, également les reconversions de terrains qui seraient des terrains industriels et seraient en grand nombre. Et tout cela, évidemment, c'est du virtuel parce que personne ne se donne le mal de la peine de le vérifier. Alors, par exemple, l'assertion qu'un département disparaît tous les 7 ans sous le béton, disparaît sous le béton, et ce qui n'est pas rien, ferait que l'Occitanie, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, justement la période où on a énormément construit jusqu'à aujourd'hui, bah, serait entièrement bétonnée. Alors, je ne sais pas si elle n'aurait pas disparu, mais enfin, elle serait sous une carapace de béton, ce qui évidemment est une absurdité totale. Quand je dis l'Occitanie, ça pourrait être une autre région, grande région de notre pays. Donc, on a d'un côté cette intelligence artificielle, et de l'autre côté, on peut dire la bêtise contemporaine. Et les exemples ne manquent pas. Donc, on a une perte d'une connaissance qui était faite, on peut dire, de bon sens, d'une d'une interprétation vécue que l'on pouvait vérifier. Alors effectivement, on n'avait pas Google qui donnait la réponse tout de suite, mais on d'abord, je crois qu'on avait un sens de l'observation forcément plus aiguisé parce que c'était une nécessité. Et puis, la recherche des cartographies, des livres de géographie, de l'évolution, faisait qu'on avait une connaissance qui était importante. Alors, rien ne vous empêche de le faire d'ailleurs, et on peut avoir aussi les bénéfices de l'outil et aussi avoir la curiosité de le faire. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir tout de même des responsables politiques, et en premier le président de la République qui reprend ses propos que l'on peut considérer comme complètement imbéciles, et que il est entouré d'une armada de conseillers bardés de diplômes, des consultants extérieurs qui viennent de ces grandes sociétés américaines et qui coûtent des fortunes avec l'argent des contribuables, et on continue à dire des choses que tout le monde peut voir qui sont fausses. Alors, il y avait aussi, par exemple, les victimes de la pollution, qui serait la cause la première de la mortalité en France, et donc ces victimes seraient dans les centres-villes, c'est pour cela qu'il y aurait les fameuses zones à émissions faibles qui toucheraient notamment Toulouse, qui est en principe à l'action, et qui voudrait dire que la mortalité étant la première cause de mortalité, la mortalité dans ces zones serait infiniment plus importante, puisqu'on parlait de 100 000 morts par an, ce qui est absolument très très important, et on aurait donc une mortalité des centres-villes qui serait très importante par rapport aux gens qui vivraient hors des centres-villes, dans nos villages, dans nos campagnes ou dans nos petites villes. Donc tout le monde voit bien que c'est faux, et on le sait très bien, non seulement par l'expérience personnelle, mais on le sait aussi par les statistiques, où on voit que la mortalité des Français sur le territoire est à peu près égale, et même au contraire, elle est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que les gens habitant dans les centres-villes bénéficient de la proximité des grands hôpitaux, et bon, mais en fait, on peut dire que, en tout cas, il n'y a pas cet effet qui serait celui de 100 000 morts par an. Alors, tout ça est assez grave parce que on vit dans un fake news, justement, qui est amené par les réseaux sociaux, et personne ne les vérifie. Donc, on va marquer une pause musicale et on va reprendre sur le sujet, justement, de l'implication de l'intelligence artificielle dans le monde du bâtiment et de l'architecture.
sais pas. Un petit peu toi et moi. Et toi t'en penses quoi? Un petit peu toi et moi.
Alors je vous disais justement que Luc Ferry disait que l'intelligence artificielle allait dessiner les immeubles. Alors ça c'est assez naïf parce que je pense que beaucoup de gens croient que l'informatique qui est généralisée chez les architectes urbanistes ou dans les entreprises. Alors effectivement, il y a des avantages de cette informatisation qui ne sont pas à négliger. Alors les premiers, c'est effectivement dans les agences d'architecture, il y avait la nécessité d'avoir les documentations à jour, c'est-à-dire que chaque produit, que ce soit du sanitaire, de l'électricité, des appareils, des tuiles, des briques, etc. Il fallait une mise à jour permanente qui était faite dans des classeurs et qui demandait dans les agences assez importantes un travail assez considérable pour que on ne soit pas en décalage entre la réalité de la production industrielle et ce que l'on pouvait préconiser dans les plans pour pouvoir construire. Évidemment, il fallait que les produits soient disponibles, donc on ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs. Donc tout cela, évidemment, est résolu. Après, il y a le dessin informatique et on s'imagine que ça se passe d'une manière miraculeuse et que les choses se font toutes seules. En fin de compte, les choses, quand on dit que l'informatique va décider les bâtiments. Bah, s'il s'agit de copier des bâtiments, effectivement, on pouvait tout à fait, avec une bonne photocopieuse et des agrandissements, une paire de ciseaux et de la colle, reproduire des projets déjà faits. Et donc, évidemment, ce n'est pas la machine qui les fait. Et la problématique qui est chaque fois posée d'un terrain, d'une situation, bah, ce n'est pas la machine qui résout le problème. Et je ne vois pas d'ailleurs quel est l'avantage on aurait de mettre une machine pour entrer toutes ces données qui sont, on peut dire, certaines matérielles, certaines de l'immatériel, qui est la fonctionnalité, et puis l'inclusion dans un paysage, et tout ce qui peut relever, on peut dire, d'un mot que je n'aime pas trop, mais qui est l'esthétique, en tout cas, la beauté d'un bâtiment, l'expérience spatiale qui peut en découler. Alors, effectivement, si les gens disent cela, parce qu'ils ont vu le changement avec les images numérisées. Alors, effectivement, on a quelque chose qui est nouveau. Alors, le dessin d'architecture, c'est vieux comme le monde, et les architectes, on peut dire, savaient dessiner et représenter, mais c'était, et ça l'est toujours, artistiquement intéressant, mais assez lent et en tout cas l'image numérique en montrant un bâtiment tel qu'il va être est beaucoup plus impressionnante parce que on arrive à des rendus informatiques où on a l'impression que c'est la photo réelle. Alors est-ce que c'est un progrès? Bon, ça peut, on peut dire que ça peut l'être, mais aussi on peut en voir les inconvénients. Alors, les inconvénients, ils sont toujours dans tout ce qui peut être la manipulation d'images. On a vu récemment qu'il y a un logiciel qui montre le pape avec une doudoune, le président Macron devant des policiers comme s'il était un manifestant. Mais tout ça est quand même assez imbécile et je ne pense pas qu'on peut dire que c'est les grands progrès de la machine parce que on pouvait faire avec, encore une fois, des photos de la colle où il y avait le logiciel Photoshop qui date d'une trentaine d'années, qui permettait de faire cela. Et aujourd'hui, on arrive à le faire. Disons, on peut faire des blagues et des simulations et tromper son monde. Alors, justement, tromper son monde, c'est bien la question par rapport à l'image numérique. Et qui nous dit que l'image numérisée va être exactement ce que l'on va voir? Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir de tromperie? Eh bien, c'est sûr qu'il peut y avoir de tromperie. Et quel est le moyen de le vérifier? Et là aussi, c'est assez difficile, si ce n'est impossible. Mais on peut dire le pire de l'histoire, c'est la même chose que le GPS et le sens de l'orientation. Parce que la connaissance qui était nécessaire pour comprendre les plans en géométral. Bon, le géométral, ça veut dire, c'est les façades dépliées et sans perspective. Donc, c'est avec cela que l'on construit la réalité. On ne l'aperçoit pas comme cela, mais c'est comme un patron quand on fait un vêtement. Alors, il peut y avoir le croquis du couturier, mais pour le réaliser, on est obligé d'avoir des pièces assemblées, comme d'ailleurs pour les productions industrielles, les pièces techniques, elles sont vues, ce qu'on appelait avant les croquis-côtés, donc elles ne sont pas vues en trois dimensions. Et on n'a pas besoin de trois dimensions, puisqu'en fait, pour le réaliser, il faut assembler des éléments qui sont à plat et ensuite créer le volume. Alors là, ça demande effectivement, comme une partition musicale n'est pas lisible par un amateur de musique comme moi, par exemple, c'est un objet mystérieux et la lecture de la musique demande une grande connaissance et des efforts. Et il en est de même pour l'architecture et pour l'urbanisme. Et alors, quand les choses sont facilitées, évidemment, on a l'impression que tout est simple. Donc, tout le monde peut se permettre, sans aucun effort, d'avoir des jugements à l'emporte-pièce sur des choses qui peuvent être des réalités déformées. Mais sans cela, il y a le manque d'effort. Et ce manque d'effort donne l'impression à des gens qui n'y connaissent rien qu'ils sont des grands savants et qu'ils connaissent les choses. Et justement, cette difficulté qui était celle de, et qu'il est toujours, pour comprendre un plan, pour comprendre un espace urbain, pour comprendre des agencements entre des bâtiments entre eux, d'un bâtiment dans un site, et bien sûr, ça demandait, et ça demande toujours, un effort même considérable, et aussi certainement, on peut dire, pas, je veux pas employer le mot de don, mais en tout cas, des qualités que forcément tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas l'oreille musicale et tout le monde ne sait pas représenter le réel à partir du dessin. Et ça, effectivement, ça joue à la fois dans l'enseignement de l'architecture, mais aussi dans le rapport que peuvent avoir des professionnels. Alors, pour revenir au métier, les choses ne changent pas. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un plan. C'est-à-dire que quand le maçon monte un mur, il a besoin du mur avec les côtes, et son mur, il n'est pas avec des couleurs, des arbres, des gens qui se promènent dans la rue. Il n'en a rien à faire de cela. Donc on arrive toujours à des choses simples. Alors là aussi, je pense qu'il y a une grande naïveté. Et prenons un secteur comme l'automobile. Alors l'automobile, c'est vraiment le secteur qui est le plus extraordinaire sur le plan du progrès technique, puisqu'il touche tout le monde. Et puis l'évolution de l'automobile, ça s'est passé, on peut dire, en un siècle et un peu plus, un siècle et demi. On pourrait imaginer que les premières voitures les voitures d'aujourd'hui, avec justement ce monde d'informatique, il n'y a rien qui est pareil dans la réalisation. Eh bien, en fait, les choses ne sont pas aussi simples. Et les designers, les gens qui créent les carrosseries, par exemple, effectivement, ils peuvent avoir des outils qu'ils n'avaient pas avec des aides dans l'informatique pour établir l'aérodynamisme, mais il est dans la réalité, et c'est quelque chose qui n'est pas su. Eh bien, ils travaillent, ils dessinent évidemment à la main, et ils font des maquettes en argile, comme on faisait avant, mais un avant qui peut d'ailleurs remonter à des temps, on peut dire, immémoriaux, où on réalisait des objets que l'on agrandissait, et que pour voir les trois dimensions, on était obligé de les faire en plus de ça, de ses propres mains. Alors, je ne suis pas... j'essaie de ramener ces grandes peurs ou aussi ces grands espoirs sur le changement du monde avec des réalités. Et alors, ce que je vous disais, c'est qu'on peut arriver avec une photocopieuse de la colle à assembler des plans, et l'informatique, contrairement à ce que l'on croit, n'a pas changé beaucoup la démarche. Et un exemple tout à fait significatif, c'est que, par exemple, Norman Foster, qui est, on peut dire, la figure la plus importante de ce qu'on appelle le high-tech. Le high-tech, c'est l'architecture la plus technique, et qui a une des plus grandes agences d'architecture du monde en plusieurs cabinets. Eh bien, il y avait des photos récentes, on le voit à sa table, et il dessine. Il a, je crois, des milliers de carnets de dessins, avec des dessins qui sont d'ailleurs remarquables, annotés à la main. Et donc, on peut dire l'agence la plus pointue sur un plan de la technologie, qui utilise les matériaux les plus performants, avec les prouesses techniques les plus importantes. Eh bien, le concepteur central, il travaille avec un crayon et du papier pour concevoir tout cela. Alors, je trouve ça assez rassurant, et ce sera ma conclusion. À la semaine prochaine.